Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Malgré les éléments à charge qui s'accumulent, l'avocat de Jean-Pierre Murat obtient sa comparution devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel le 4 janvier 2012. Murat, bien que mis en examen, est transféré au CHS de Sevray où il attendra son procès. Lors d'une nouvelle audition, le juge Vion demande au suspect de désigner le coin de la cave où il dit avoir uriné en 1996. Sur le plan des lieux, Jean-Pierre Murat pointe l'endroit exact où était le corps de Christelle. Il n'a pas uriné contre un mur, comme on pouvait s'y attendre. Cet emplacement précis n'a pourtant jamais été révélé. Au sujet de l'émission, Murat change encore de version. C'était avec le frère de Michel qu'il l'a regardé, en fait, et en entier. C'est là qu'il a vu que le fuyard portait une veste à peau de mouton. Sauf que dans l'émission, le fuyard porte un blouson de cuir et que Jacques Barthelot était en mission avec sa compagnie pour l'armée au moment de la diffusion. Impossible donc, nouveau mensonge prouvé. Dans le but d'obtenir de nouveaux éléments, le juge Vion ordonne un transport de justice en octobre 2012. Sur place se retrouvent le juge et sa greffière, Marie Pichon, sa fille Pascale et leurs avocats, Maître Seban et Herman, quelques officiers de la PJ, l'inspecteur Nedilko et, évidemment, Jean-Pierre Murat et son avocat, Michel Grebeau. On fait quelques prélèvements, puis on organise une reconstitution. Murat refuse de reproduire les gestes du tueur puisqu'il se dit innocent. Il répond à quelques questions, s'y refuse lorsqu'elle le dérange. Une caméra est braquée sur son visage en permanence. En repartant, le cortège longe le chemin quittant la résidence. Lorsque Murat passe devant l'endroit précis où le couteau a été retrouvé, il s'arrête et relève la tête, prêt à répondre à une nouvelle salve de questions. Un silence de mort s'abat sur l'assistance. Personne ne lui a demandé de s'arrêter. Personne ne lui a dit où le couteau avait été retrouvé. Personne ne s'attendait même à ce qu'il le sache. Mais tout le monde peut constater que c'est bien le cas. Cela sera apprécié au procès grâce aux images. Murat est ensuite reconduit au CHS et l'enquête se poursuit. Nedilko entend d'autres témoins de la vie de Jean-Pierre Murat, notamment Christine Gau, qui se présente à la PJ sans y avoir été sollicitée. J'ai découvert le nom de Jean-Pierre dans les journaux, alors que je revenais habiter au Creusot. J'ai donc tenu à me manifester auprès de la police pour dire ce que je savais. J'ai fréquenté Joseph à partir de 1982. J'ai eu un enfant avec lui, prénommé Nicolas. J'ai arrêté de fréquenter la famille Murat après 1988. Le père était très autoritaire, il passait ses après-midi au foyer italien. Il buvait un peu, beaucoup. Je suis resté en contact avec la mère, Sonia Vega Murat, surtout quand mon fils a été déclaré schizophrène en 2002. J'ai été alerté par les médecins quand j'ai fait interner mon fils au CHS de la Chartreuse. J'ai prévenu Sonia, elle s'est effondrée. Elle m'a dit qu'elle vivait ça depuis des années avec Jean-Pierre. Elle m'a dit de faire très attention, que ça pouvait être très dangereux. On a beaucoup pleuré quand on a parlé. Sonia m'a dit qu'il y avait plusieurs Murat dans ce cas en Sardaigne. Mon fils a beaucoup de similitudes avec Jean-Pierre. Dans ses mimiques, sa façon de se tenir. Jean-Pierre faisait peur à Sonia. Il piquait des crises, il cassait tout. Elle m'a fait sentir qu'il y avait un lourd secret derrière ce qu'elle disait. Sonia voulait me dire des choses graves. Elle voulait me voir pour me le dire. Sonia Murat a développé un cancer. Elle est décédée en 2008. Je m'en veux de n'avoir pu la voir avant sa mort, ajoute Christine. Je sens que c'était en rapport avec celle de Christelle, même si je n'ai aucune preuve. En juin 2013, le docteur Gérald Allois, psychiatre à l'hôpital de Mâcon, se voit chargé par le juge des libertés d'établir un rapport sur le dossier médical de Jean-Pierre Murat. Ce dernier commence par expliquer ce qu'est la schizophrénie, une pathologie psychotique qui se caractérise par des troubles cognitifs, l'absence de logique des tâches à faire, des émoussements affectifs, peu d'émotions, des idées délirantes. Il ajoute que le suspect peut se sentir persécuté, avoir des hallucinations et des difficultés relationnelles. Lorsque le docteur rencontre Murat, celui-ci explique calmement qu'il préfère rester au centre psychiatrique plutôt que d'aller en prison. Murat indique que s'il a accusé d'autres personnes du meurtre, c'est à cause de l'alcool et d'un médicament. Autre expert chargé du cas, Le psychiatre Michel Lecan témoigne. Murat reste dans la zone basse de la normalité en matière d'intelligence. Son niveau d'analyse est passable. Le sujet apparaît méfiant, peu disert. Il est nerveux, soucieux de donner une bonne image de lui-même, égocentré, et dispose de peu d'ouverture vers l'extérieur et peu d'empathie. Le docteur Lecan rapporte que Murat présente des tremblements qui s'accumulent lorsque l'on évoque les faits, le meurtre de Christelle. Le 16 septembre 2014, Murat disparaît de l'hôpital où il était détenu en fin d'après-midi. On s'en aperçoit au moment du repas et on le cherche, pensant à une évasion. Celui-ci reparaît le lendemain aux alentours de 16h30, sans que l'on sache ni ce qu'il a fait ni où il est allé. Cela lui vaut la révocation de son contrôle judiciaire et son placement en détention provisoire à la prison de Dijon, en service médicalisé. Son procès s'ouvre enfin le 10 juin 2015 à Chalon-sur-Saône. Cela fait 25 ans que Marie Pichon attend cet instant. Voir le meurtrier de sa fille traduit en justice, obtenir les réponses à ses si nombreuses questions. Dès l'ouverture, Jean-Pierre Murat donne le ton. « Je n'ai tué personne, ce n'est pas moi qui ai tué cette petite fille. » Il garde cette version tout au long du procès, qui n'apprendra rien à Marie, sinon que l'attente est finie. Lors des plaidoiries, les avocats Herman et Seban assemblent tous deux les pièces de ce qu'ils considèrent comme un puzzle constituant le visage du meurtrier, Jean-Pierre Murat. Dans son réquisitoire, l'avocat général Christophe Rode présente ses excuses à la famille pour cette si longue attente, puis souligne la dignité et la force de conviction de Marie Pichon. Il enchaîne avec un rappel des faits et l'exposé de sa conviction absolue. Ce 18 décembre 1986, Jean-Pierre Murat est l'auteur de ce meurtre. Il ajoute avec regret « Si je suis convaincu de la culpabilité de Jean-Pierre Murat, je suis incapable de répondre à toutes les questions. Je ne peux pas dire pourquoi Jean-Pierre Murat a tué Christelle Maïri. » Il termine par sa requête, une peine remarquable. « Votre sanction est impérative. » Elle montrera que personne n'a baissé les bras durant toutes ces années. Une sanction à la hauteur des faits. Ôter une vie, c'est inacceptable, c'est intolérable. Alors une sanction, c'est rendre la dignité à Christelle Maïri. Si Jean-Pierre Murat est le meurtrier, s'il avait été jugé dans les années qui ont suivi le meurtre, il encourait la prison à perpétuité. Aujourd'hui, la loi a ramené cette peine maximale à 30 ans, et si vous estimez que son état psychique est altéré, la loi prévoit une réduction d'un tiers. Aujourd'hui, on peut considérer que Jean-Pierre Murat a une réduction de peine de 25 ans. Il a échappé à la justice pendant 25 ans. Alors je vous demanderai d'appliquer la peine de 20 ans de réclusion criminelle. En réaction, la famille de Christelle trouve la peine bien trop faible. Mais quelle peine pourrait compenser la perte d'une fille, d'une sœur et de 30 ans d'attente? En réponse, l'avocat de Jean-Pierre Murat se fait compatissant avec cette famille meurtrie. Les premiers mots de Maître Grebeau dans la défense de son client sont pour la mère de la victime. Madame Pichon, il y a 28 ans et 6 mois jour pour jour, une mauvaise personne a pris la vie de votre fille. Pendant toutes ces années, et surtout depuis 3 ans, puisque cela fait 3 ans que j'ai été désigné pour assister Monsieur Murat, je rends hommage à votre dignité, à votre réserve. Vous avez toujours dit, je n'accuse pas Jean-Pierre Murat, je laisse la justice décider. Je conçois que je puisse être considéré comme un ennemi à vos yeux. Madame, la défense que je vais présenter n'est pas contre vous. Elle est pour Jean-Pierre Murat. Il a le droit d'avoir la voix, par la mienne, pour dire non, je ne suis pas le meurtrier. Maître Grebeau enchaîne, en donnant toutes les raisons qui font penser que la mauvaise personne en question n'est pas son client. Il insinue le doute dans les esprits des jurés et conclut ainsi. 5 fois, l'avocat général a dit qu'il avait la conviction de la culpabilité de Jean-Pierre Murat. Ce n'est pas son rôle d'avoir la conviction. Il doit apporter les preuves. Si vous aviez un frère ou un fils que l'on accuse sur la base de cette accusation, vous trouveriez ça injuste, vous vous rebelleriez. Alors rebellez-vous, n'ajoutez pas le malheur au malheur, n'ajoutez pas d'injustice. Le verdict est prononcé le 19 juin 2015. Jean-Pierre Murat, 47 ans, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Christelle Maïri. Dans l'audience civile qui suit, la Cour condamne Jean-Pierre Murat à verser 200 000 euros aux membres de la famille Maïri, au titre du préjudice subi. Le soulagement de la fin de la procédure pour Marie Pichon est de courte durée. Maître Grebeau fait appel pour son client dans les jours qui suivent. Ce second procès s'ouvre à Dijon à peine un an plus tard, le 16 juin 2016. Maître Grebot est remercié. Audrey Bitard est maintenant aux commandes de la défense de Murat. Rien de nouveau n'apparaît au cours de la semaine du procès, si ce n'est un courrier adressé par Jean-Pierre Murat à Michel Barthelot, alors même qu'il le sait décédé. Dans ce courrier, il écrit entre autres divagations « Elle a tué ton bébé, Michel. Elle a avorté. J'ai bien fait de lui couper la gueule à cette putain. » La lecture de ces mots en audience fait son effet. Pourtant, la défense reste la même. Seuls les mots prononcés changent. Je demande aux jurés et aux juges de bien réfléchir à ce qui s'est passé au long de ces 7 jours. Je ne crois pas que j'aurais pu dire à Madame Maillery « Je ne suis pas le coupable du meurtre de votre fille » si j'avais commis le meurtre. Une personne qui aurait commis ce meurtre n'aurait pas le courage de le dire. Corinne Herman, avocate de l'accusation, prononce des mots lourds, poignants, en s'adressant directement à l'accusé. « Moi, je crois à cette image de mi-homme, mi-serpent. Il y a ce venin que vous avez distillé dans les veines de ces gens. Vous avez distillé la peur. Ce venin, vous l'avez instillé dans votre famille qui vous a couvert. Votre mère a éloigné ses petits-enfants. Elle a tout supporté. Elle est morte juste avant votre garde à vue. Elle vous aimait, elle en est morte. Marie, elle vous l'a dit, il lui reste moins de temps à vivre apaisé que le temps qu'elle a passé à souffrir. Dans les images de la reconstitution, il y a une image que l'on n'a pas montrée, celle du visage de Christelle. Elle est morte les yeux ouverts, et le dernier regard qu'elle l'a eu, c'est sur cette cave humide et le rat de cave, vous. » Dans son réquisitoire, l'avocat général Philippe Chassaigne s'interroge sur le discours de Murat alors même qu'il est interné. Il se demande s'il est le meurtrier, qui a la même voix que lui. Il s'adresse à son reflet dans la glace. Ce n'est pas un aveu circonstancié, mais pourquoi s'interroge-t-il sur le fait qu'il aurait pu commettre d'autres crimes? Surtout s'il n'en a commis aucun. J'ai bien fait de lui couper la gueule à cette putain. Oui, ce courrier est délirant, mais tous ces délires sont-ils nécessairement contraires à la réalité? Non. Lorsqu'il évoque l'avortement de Christelle, cela ne relève pas de son imagination, mais c'est un fait avéré. On n'a aucune raison de penser que c'est sa maladie qui le pousse à faire ça. Il conclut en réclamant la confirmation de la peine de première instance. Maître Bitard, pour la défense, tente de démonter les pièces du puzzle assemblées par ses confrères. Ce dossier n'est pas un puzzle, c'est une énigme pour laquelle on n'a pas de réponse. On peut tout imaginer, tout supposer, on ne peut rien affirmer. Si vous êtes dans la logique de construction où on vous invite à aller, alors vous le condamnerez. Mais ce n'est pas votre objectif. Pour certains, les portes se sont fermées un peu trop vite. Il y a beaucoup trop de doutes dans ce dossier. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de conviction, mais qu'il y a une envie que celui-là soit condamné. Acquitté, ce n'est pas sans enjeu. Monsieur Murat, tout le monde se fiche de son sort. À l'inverse, il y a cette famille qui vous a touché et qui a également touché la défense. Mais vous n'êtes pas là pour répondre à la douleur d'une famille. Vous ne devez pas craindre de déplaire. Un seul doute et vous devrez la quitter. Aujourd'hui, je vous demande de juger Jean-Pierre Murat. Aujourd'hui, ce sont les certitudes qui sont ridicules. Dans ce dossier, vous n'en avez aucune. Après un délibéré de presque 8 heures, les jurés ont répondu « oui » aux 2 questions posées. L'accusé Jean-Pierre Murat est-il coupable d'avoir tué Christelle Maillery le 18 décembre 1986 ? Oui. Jean-Pierre Murat avait-il son discernement ? Oui. Jean-Pierre Murat est déclaré coupable et condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le 11 juillet 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la condamnation en appel. Depuis ce jour, Jean-Pierre Murat est définitivement coupable au regard de la loi.